Europe 1 Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe 1 Soir, 2 heures d'infos et de débats, même le week-end. 18h sur Europe 1. Au sommaire de ce 1er avril, 49-3, méthode du gouvernement. Voilà les raisons pour lesquelles 3 à 6 000 manifestants contre les retraites ont déferlé à Vire dans le Calvados. Siège d'Elisabeth Borne, parcours fléché qui n'a pas pu passer, notamment devant la permanence du suppléant de la Première Ministre. On fait le point dès le début de ce journal. Revalorisation des allocations chômage, fin de la trêve hivernale, fin du chèque carburant et bien d'autres changements en ce 1er avril. Beaucoup concernent votre portefeuille et tiens, à propos de cela, combien a coûté la grève ces derniers 90 jours? Réponse dans ce journal. À suivre également, quelle suite pour Donald Trump, maintenant qu'il a été officiellement inculpé dans l'affaire Stormy Daniels? Le pape, toujours vivant, comme il s'amuse à le dire lui-même, nous irons à Rome. Et puis le foot, Auxerre 3 en 29e journée, avant Rennes-Lens ce soir. La tendance météo, Valérie Darmon.
Et bien pluvieux et instable du sud-ouest au nord-est cette fois-ci. Le retour des éclaircies de l'estuaire de la Gironde à la Normandie et il fait beau sur la Côte d'Azur ainsi que dans l'extrême nord.
18h15, l'interview politique. Le socialiste Jean-Christophe Cambadélis condamne-t-il les violences faites aux policiers ou appelle-t-il à la désobéissance? 18h30, ça fait débat. Benjamin Morel et William Tay se pencheront notamment sur la communication gouvernementale. Que fait la ministre Schiappa en couverture de Playboy? 19h15, un nouveau lieu de culture et d'exploration aux portes de Paris. Le hangar Y à Meudon, ressuscité par l'homme d'affaires Frédéric Jousset. Peut-on y découvrir des choses? Et si oui, lesquelles? Quelle est l'idée? Les deux directeurs du site seront là pour nous expliquer. 19h30, panorama. Et si nous réussissions à sortir de la crise grâce à la sobriété? Mais oui, mais comment? Benjamin Brice, docteur en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales, publie La sobriété gagnante chez LibriNova. Il nous expliquera tout cela sous l'œil critique de l'économiste Michel Ruimi. C'est donc sur les terres électives d'Elisabeth Borne à Vire, dans le Calvados, que plusieurs milliers de manifestants sont allés pacifiquement crier leur colère contre la réforme des retraites. La Première ministre, qui doit mercredi recevoir l'intersyndicale, a toutefois eu cette formule qui vaut bien dire ce qu'elle veut dire. On ne peut pas mettre en pause le texte. Sophie Binet, fraîchement élue secrétaire générale de la CGT, a immédiatement affirmé qu'elle n'irait mercredi à Matignon que si elle se faisait entendre sur le retrait de la loi, toujours examinée entre-temps par le Conseil constitutionnel qui doit lui rendre sa décision au 14 avril. C'est donc dans ce contexte politique que les habitants du Calvados se sont réunis et malgré cette foule immense, la manif a eu lieu dans le calme, Lucie de Pertuis.
Oui Pierre, derrière la vitrine de son magasin de jeux, Alexandre observe la foule de manifestants battre le pavé.
Pour l'instant, tout se passe bien, tout est dans la bonne ambiance, il n'y a pas eu de débordement jusque-là. Tout a l'air d'aller pour le mieux pour le moment. Par rapport à ce qui était prévu, évidemment, ils sont beaucoup moins. C'est vraiment bonne ambiance, ça chante, il y a les véhicules qui commencent doucement sur le cortège, il y a tous les manifestants là qui sont en train de faire le tour du rond-point, ils montent sur le rond-point là.
C'est l'un des seuls commerçants du centre-ville à être resté ouvert aujourd'hui. Les magasins sont presque tous fermés et même barricadés, explique Alexandre.
Il y a eu un peu une politique de peur. Il y en a beaucoup qui sont barricadés, qui ont vraiment eu vraiment peur pour leur commerce. On annonçait 40 000 personnes, on annonçait des casseurs qui venaient de partout. Et au final, pour l'instant, c'est plutôt... on les entend, ils arrivent, bonne ambiance. Et puis, comme je disais, beaucoup moins de personnes que prévu.
Les mobilisations ont bien sûr un impact sur l'activité des commerces. Michel a dû baisser le rideau de son magasin de chaussures en ce samedi après-midi.
Ce matin, je suis resté ouvert, mais personne n'est rentré. Sur le mois de mars, à cause des manifestations qu'on a régulièrement, c'est moins 27% de chiffre d'affaires.
Et malgré une pluie battante, la mobilisation a rassemblé 3100 manifestants selon la préfecture, 6000 selon les syndicats. Un record historique pour la petite ville de Vire.
Merci Lucie de Pertuis. Autre contexte, celui du 1er avril avec ses changements. Ainsi, l'outrage sexiste passe d'infraction à délit. Il le rend passible d'une amende de 3 750 €. Également la fin de la trêve hivernale. Et puis à noter la revalorisation des prestations sociales, notamment le RSA, mais aussi celle des allocations chômage, plus 1,9%. À noter aussi les chèques fuel et bois qui sont prolongés, mais une diminution de ma prime rénove et la fin de la prime pour les carburants. D'ailleurs, à ce sujet, le mouvement de contestation se poursuit dans les raffineries, ce qui impacte le ravitaillement en station. 28 départements recensent au moins 10% de stations en rupture totale ou partielle de carburant. C'est très vrai en région parisienne, surtout. Wilfried de Villers, vous êtes allé à la rencontre d'automobilistes impactés par ces ruptures.
Ah oui, je suis dans une station service tout proche du périphérique parisien. Alors ici, il n'y a plus de sans-plomb 98, c'est ce que cherchait Daniel.
On s'est un petit peu éloigné pour trouver une pompe qui distribuait du 95. On a du mal à trouver du 98, il n'y en a nulle part. On trouve du gasoil facilement, mais le 98, il n'y en a pas. Et là, malheureusement, je vais être obligée de prendre du 95. Ça ne m'arrange pas, mais voilà.
Alors une autre conductrice a elle aussi dû se rabattre sur du sans-plomb 95, elle était un peu perdue tout à l'heure. À Paris, plus de 37% en fait des stations connaissent des pénuries partielles ou totales. C'est pire encore dans le Val-de-Marne avec une station sur deux en rupture partielle. Gilles, lui aussi, a fait de la route pour venir se ravitailler.
On ne veut pas que ça dure longtemps, quoi, parce que après, ça, c'est pas bien pour nous qui travaillons la nuit et tout. On est obligé de courir dans la journée pour trouver où il faut se ravitailler, quoi.
Alors Gilles, il espère que l'on ne retombera pas dans la même situation qu'à l'automne 2022 lors de la précédente grève des raffineurs. Un scénario qui ne semble pas pour l'instant être d'actualité.
Merci Wilfried de Villers en direct d'une station-service proche du périphérique parisien pour Europe 1. Et jeudi, au lendemain de la réunion à Matignon, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève. Déjà la 11e depuis le début du mouvement il y a 3 mois. Transport en commun, aviation, fret ou encore éducation nationale. La France va de nouveau vivre au ralenti. Et dans tout ça, eh bien, l'addition commence à chiffrer, Barthélémy Philippe.
Oui, l'économie française n'est pas à genoux, comme en rêvaient les durs de la CGT. Mais l'addition des journées de mobilisation interprofessionnelle et des grèves reconductibles dans l'énergie ou les transports coûte cher, selon l'économiste Marc Toiti.
On estime autour de 4 à 5 milliards d'euros le coût de l'ensemble de ces grèves. Et après, il y a un coût indirect qui est sur l'image et la crédibilité de l'économie française.
Parmi les secteurs les plus touchés, il y a donc les transports. D'après les informations d'Europe 1, la SNCF perd 25 millions d'euros par jour de grève. À la RATP, la facture s'élèverait à 3 millions d'euros. L'activité des entreprises et des commerces tourne aussi au ralenti, particulièrement à Paris, épicentre de la contestation. Selon le MEDEF, plus de 6 entreprises sur 10 voient leur chiffre d'affaires baisser à cause de la grève.
Merci Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Demain 10h au grand rendez-vous d'Europe 1, c'est Gérald Darmanin qui viendra s'exprimer notamment sur la polémique concernant les violences policières et les violences faites aux forces de l'ordre. 18h07, vous êtes sur Europe, vous restez avec nous dans un instant. Trump inculpé, très bien, mais quelle suite pour l'ancien président américain. A tout de suite.
Europe 1 soir week-end. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal à 18h09 sur Europe 1, direction les États-Unis où, comme en France, une puissante tornade a balayé le pays. Au total, 3 personnes ont trouvé la mort dans l'Arkansas, tandis que 3 autres ont péri dans des orages qui ont touché l'Illinois et l'Indiana. Aux États-Unis, où une tornade judiciaire s'abat sur Donald Trump pour la première fois dans l'histoire du pays, un ancien président est inculpé au pénal par la justice de l'État de New York. Mardi prochain, Trump devra se présenter devant les tribunaux dans le cadre de l'achat du silence de Stormy Daniels en 2016, affaire jugée en 2 volets, l'un financier et l'autre pénal. Mais alors, que risque-t-il vraiment? L'analyse de Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
Au maximum, ce sera 4 ans de prison. Mais dans le cas de Donald Trump, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de prison puisque ce serait une première fois et que ça s'arrêterait à une amende. Pour ce qui est de l'affaire de Stormy Daniels ou de Karen McDougal, donc 2 affaires d'origine sexuelle avec un paiement qui aurait été versé à un pot de vin pour faire taire les 2 protagonistes, les charges peuvent être en effet beaucoup plus lourdes. Mais tout ça reste à clarifier quand même, ce qui sera fait durant le week-end ou au plus tard lundi, puisqu'on devrait connaître les charges avant que Donald Trump se rende à New York pour se faire notifier l'inculpation officielle.
Le spécialiste des États-Unis Jean-Éric Brana avec Thibaut Hue. La communauté catholique peut souffler. Le pape est sorti de l'hôpital ce matin. Il avait été hospitalisé pendant 3 jours à cause d'une bronchite infectieuse. Nous partons à Rome rejoindre le correspondant d'Europe 1, Antonino Gallofaro. Antonino, le pape qui se prépare maintenant pour le début de la Semaine Sainte.
Oui, le pape a rassuré tout le monde. Il est rentré ce matin en Vatican. Mais avant, il a aussi repris ses habitudes, comme si de rien n'était. Donc, comme avant et après chaque voyage, le pontife est passé par Sainte Marie Majeure, l'une des 4 basiliques de Rome. Il en a profité pour prier pour une petite fille décédée cette nuit dans l'hôpital où il a passé 3 jours. Plus tôt dans la matinée, il a rencontré les parents et a prié avec eux. Leur fille se trouvait dans le service d'oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile de l'hôpital Gemelli de Rome, que le pape a visité lors de son hospitalisation. 3 jours de soins l'ont remis en forme. C'est donc bien Saint-Martin, lui, qui présidera la messe des Rameaux demain matin, place Saint-Pierre. Le calendrier liturgique de la Semaine Sainte ne subit finalement aucune modification. François Adonguéry attend pour présider tous les rendez-vous religieux ces prochains jours jusqu'à Pâques.
Merci Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome. Le sport aussi avec le foot, 29e journée de Ligue 1. En ce moment, c'est Auxerre qui affronte 3. Bonsoir Gérard Delorme.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. On joue depuis 52 minutes ici au stade Abbé Deschamps et toujours pas de but, 0-0 entre ces deux équipes dans ce match de la peur. Pas de véritables occasions non plus au cours de la première période. Des équipes qui ont peur, des équipes tendues, des équipes qui se neutralise et là bien le Pélissier a porté quelques changements pour essayer de dynamiser l'attaque de la Auxerre. Il a fait entrer d'Acosta à la place de Dembélé et Perrin à la place d'Ablin, deux joueurs qui ont été transparents au cours de la première période. Là c'est un corner pour les Troyens, attention avec une occasion, le ballon qui traîne dans la surface de réparation, il va être renvoyé par la défense de la Auxerre. Vous voyez, tout reste à faire ici dans ce match. La pire des choses pour les deux équipes, ça serait un match nul parce que ça ne leur permettrait pas de sortir de la zone dangereuse. Toujours 0-0. À tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure Gérard Delorme dans le journal de 19h. Et ce soir, donc, Rennes-Lens avant la suite de la journée demain qui se clôturera au Parc Parrain. PSG Lyon, reste à voir le ciel. Valérie Darmon, encore de la pluie demain.
Effectivement, du sud-ouest aux régions du nord-est, c'est-à-dire Champagne, Ardennes, Alsace et Lorraine, jusqu'aux Alpes, dès le lever du jour, on va retrouver un temps gris et pluvieux. Ces pluies continues vont persister toute la journée. Il neigera toujours sur les Pyrénées, des 1000 mètres en matinée et puis 1002 l'après-midi. Sur les autres massifs, à partir de 1100 à 1200 mètres, mais en moindre quantité, mais le risque d'avalanche qui est toujours élevé sur le massif alpin. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire jusqu'aux frontières belges, là le temps est à l'amélioration, il redevient sec le matin. Les nuages sont encore nombreux tout de même, les éclaircies déjà présentes entre Lille et la baie de Somme vont gagner du terrain au fil de la journée, notamment au nord de la Seine et puis vers la Bretagne et vers la Lorraine en fin d'après-midi et là vous profiterez du soleil. Du Languedoc-Roussillon jusqu'en PACA, le temps est bien ensoleillé aussi, même si le ciel est un petit peu voilé par des nuages d'altitude. Mistral et Tramontane soufflent fort toute la journée avec des rafales entre 80 et 90 km/h. Les maximales seront comprises entre 9 et 14 degrés sur les deux tiers nord de la France, 14 à 17 plus au sud, jusqu'à 22 sur la Côte d'Azur. Elles sont en baisse et elles repassent sous les normales de saison.
Merci Valérie Darmon. L'interview politique dans un instant sur Europe 1. Jean-Christophe Cambadélis est avec nous.